Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Pierre Gahungu.
Vous êtes bien sur la radio Nzamba à Gateka Kawe. Merci pour votre fidélité. C'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principales articulations. Les derniers propos du président de la CVR, Pierre Claver Ndayichalié, impliquant les réfugiés rwandais dans le génocide des Hutus en 1972, continuent à susciter des contestations. Le docteur Alphonse Lugambalala, qui était parmi les artisans de l'accord d'Arusha pour la réconciliation des Burundais, regrette que la CVR d'aujourd'hui travaille en contradiction avec le prescrit de cet accord. Et puis, plus d'une centaine de maisons ont été détruites dans les pluies torrentielles qui se sont abattues hier sur la colline Mutambala, en commune et province Lumonge. La population sinistrée demande une aide d'urgence. Et enfin, pénurie du carburant au chef-lieu de la province Makamba depuis bientôt 2 semaines. Du coup, les prix du ticket de transport et des denrées alimentaires ont monté. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes vendredi 22 septembre 2023. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Parlons criminalité pour démarrer ce journal. Un corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années est connu sous le sobriquet de Maïlo de la colline Moussave, en commune et province de Kayanza, a été retrouvé hier à son domicile. Les sources administratives précisent que c'était à 20h30 quand les voisins ont découvert ce corps inanimé avec une Bible à la main. La police dit avoir commencé les enquêtes pour déterminer les causes de ce meurtre. Dans le domaine de la justice, Pierre Claver Mbonima, le président de la ProDH, se dit fortement choqué du mauvais traitement dont est victime la journaliste Floriane Ilangawiye dans la prison centrale de Muyinga. Pierre Claver Mbonima dit que cette journaliste pourrait être transférée de la prison de Muyinga vers la prison centrale de Bubanza dans l'objectif de continuer à la malmener. Suivez le président de la ProDH, Pierre Claver Mbonima.
La situation de Floriane Ilangawiye, la seule dame dans le journalisme dans le monde entier et qui est en prison, et je dirais que Floriane Ilangawiye est mal traitée à la prison. Vous savez qu'elle est détenue loin de sa famille. Au lieu de la laisser à la prison de Mbima, on l'a transférée à la prison de Muyinga. Et même maintenant, nous avons des échos comme quoi on va la transférer à la prison de Bubanza. Nous avons cette information, nous ne savons pas pourquoi. Mais voilà comment elle est traitée à la prison de Muyinga. Même si elle est malade, c'est difficile d'obtenir la permission d'aller se faire soigner. Tout ça, ce sont des mauvais traitements qu'on inflige à cette dame prisonnière. Et c'est une situation franchement que nous déplorons beaucoup.
Et puis après l'arrestation mardi de la semaine dernière de 2 jeunes Imbonerakure, Jonas Chokouma et Viator Girukwishaka au chef-lieu de la province de Ngozi, ils ont été relâchés la nuit dernière et sont retournés chez eux. Ils étaient accusés d'avoir volé une moto d'un citoyen. Des sources sur place à Ngozi nous disent que c'est le responsable du parti CNDD-FDD qui est intervenu pour la libération de ces 2 hommes qui ont été libérés par la décision du procureur de la République à Ngozi. La population dit ne pas comprendre comment les responsables du parti s'immiscent dans les affaires de la justice pour faire libérer des gens. Pour en savoir plus, nous avons cherché au téléphone la réaction du procureur de la République à Ngozi, mais sans succès. Dans la suite de ce journal, la commission Vérité et Réconciliation telle qu'elle est et telle qu'elle travaille aujourd'hui est une commission non reconnue dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation des Burundais. Tous les points convenus ne sont pas du tout suivis par cette commission. C'est l'explication du docteur Alphonse Lugambalala, l'un des artisans de cet accord. Il le dit en se basant sur le récent rapport impliquant les anciens réfugiés rwandais dans les crimes commis au Burundi contre les Hutus. Pour Alphonse Lugambalala, à l'époque, il était convenu que la commission soit mise en place au cours du pouvoir intérimaire, car elle ne peut pas faire son travail correctement dans un pouvoir dirigé par un seul parti. Écoutez.
Après avoir beaucoup débattu sur les crimes du passé au Burundi, à Arusha, chacun étant Hutu, étant Tutsi, accusant l'autre parti d'être à la base de tous les problèmes que nous avons connus, nous sommes arrivés quand même à la conclusion que, au vu des échanges que nous avons eus, il serait nécessaire, comme point de départ pour la réconciliation, de reconnaître qu'il y a eu des actes de génocide contre les Hutus et des actes de génocide contre les Tutsis. Cela est écrit au niveau du protocole 1, article 3, alinéa C. C'est donc une reconnaissance de ceux qui ont négocié à Arusha concernant tous ces crimes-là. Parce qu'il serait malsain même de ne pas reconnaître qu'il y a des personnes d'origine Hutu qui ont été tuées parce que Hutu. Qu'il y a des personnes d'origine Tutsi qui ont été tuées parce que Tutsi. Peu importe les raisons qui seront invoquées pour justifier ceci ou cela comme certains le font, cela s'est passé, nous devons le reconnaître, et les signataires de l'accord d'Arusha, tous ont signé et n'ont pas émis de réserve sur cet article 3. Concernant la commission Vérité et Réconciliation, je voudrais ici rappeler certains points qui pour moi sont extrêmement importants et qui ont été fortement négligés, et qui sont malheureusement à la base de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. D'abord, nous nous étions entendus qu'il y aurait deux commissions pour nous trouver des solutions définitives à ce problème. Et ces deux commissions, nous nous étions entendus qu'ils devraient faire leur travail durant la transition. La commission Vérité et Réconciliation devait être mise en place 6 mois après le début de la transition. Et la commission d'enquête internationale judiciaire, cette fois-ci avec tous les pouvoirs judiciaires, devait être demandée aux Nations Unies avant la fin du premier mois de la transition. Donc, ces deux commissions auraient dû être mises en place durant la transition. Pourquoi ? Parce que nous voulions que les élections de 2005 puissent se dérouler sans que ce problème-là revienne dans les orientations des partis politiques ou dans les revendications des partis politiques. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, d'où justement que ces revendications continuent jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit du côté de ceux qui revendiquent pour le génocide des Hutus, de ceux qui revendiquent pour le génocide des Tutsis. Si vraiment ces commissions avaient travaillé à ce moment-là, il y aurait eu moins de sentimentalisme, moins de problèmes comme nous le voyons aujourd'hui avec la commission en place. Partant de ce que nous avions conclu, que des actes de génocide ont été commis, il était absolument nécessaire qu'on passe à la commission d'enquête internationale judiciaire et pas par une commission vérité et réconciliation qui devait seulement se préoccuper des autres crimes mineurs pour aller vers la réconciliation.
Sur ce sujet, le mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité, appelle les responsables du pays à intervenir pour redresser les dérapages de la CVR. Ce mouvement constate que cette commission est en train de replonger inexorablement le Burundi dans les conflits à caractère ethnique, à travers les déclarations qui scènent la division de Pierre Claver Ndayichariye, président de cette commission. On écoute Marie-Louise Valichako, présidente du mouvement Inamahoro.
Notre principale priorité devrait être l'unité et la réconciliation, qui sont les conditions préalables pour la reconstruction et l'enracinement de la cohésion et de la stabilité du pays. À cet égard, les responsables du pays devraient secourir d'urgence le Burundi du dérapage de la commission Vérité-Réconciliation, qui a choisi de semer les divisions entre les Hutus et les Tutsis, la haine et la rancœur, jusqu'à la régionalisation du problème, comme cela ressort des propos du président de cette commission, M. Pierre Claver Ndayichariye, dans son récent rapport devant l'Assemblée nationale. Au lieu d'établir en toute neutralité et impartialité les responsabilités des uns et des autres, et de passer ensuite à un dialogue bien pensé et orienté vers la réconciliation et l'unité des Burundais. Chers frères, chères sœurs, ne cédons plus aux divisions et aux incitations à la haine. Serrons-nous les coudes, mettons en avant l'intérêt de notre patrie et notre peuple et agissons ensemble pour un meilleur avenir de nos enfants et du Burundi.
Inzamba.
Je vous le disais dans les titres, 130 maisons ont été détruites par des inondations causées par de fortes pluies qui se sont abattues sur la localité de Mutambala dans l'après-midi de ce jeudi dans la commune et province Rumonge. Ces inondations ont emporté plusieurs objets comme le matériel scolaire des enfants, des ustensiles de cuisine et bien d'autres. Les familles éprouvées demandent une aide des bienfaiteurs. Des détails avec Eddie Claude Ninina Hadzoué.
Ces dégâts matériels ont été enregistrés après une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la localité de Mutambala dans l'après-midi de ce jeudi. Selon nos sources, 130 maisons mobiles construites en tentes et couvertes de tôles ondulées sur les 185 comptées, la localité était jusqu'au matin de ce vendredi immergée dans l'eau. Différents objets utilisés dans les ménages, dont les ustensiles de cuisine, le matériel scolaire des enfants, écoliers et élèves, étaient emportés par les eaux. Les habitants du village de Mutambala, un village à relief accidenté, avaient sollicité le traçage de caniveaux pour évacuer les eaux, mais rien n'a été fait, précise toujours nos sources. Les occupants de ce village étaient des victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika qui avait été évacué vers Mutambala en 2018. Ils proviennent des localités des quartiers Nyingayamba, centre urbain, Kanyengoko et autres localités. Ces familles éprouvées demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. La rédaction de la radio Inzamba Raté Kakawe n'est pas encore parvenue à joindre par téléphone Léonard Nyonsaba, gouverneur de la province de Rumonge, pour qu'il dise ce que l'administration va faire pour aider ces familles.
De Rumonge à Makamba, il s'observe une carence des produits pétroliers, surtout le carburant de type essence sur toutes les stations-service du chef-lieu de cette province depuis bientôt 2 semaines. Le litre d'essence s'achète actuellement à entre 10 000 francs et 12 000, ce qui a déjà occasionné la hausse du ticket de transport et d'autres denrées alimentaires. Les précisions avec Alain Majesté Barenga.
Cette carence de l'essence observe sur toutes les stations de service de la province Makamba. Cette pénurie a déjà occasionné la hausse des prix des tickets de transport. Les transportés expliquant que cette hausse est due au fait qu'ils s'approvisionnent en carburant. Si le marché noir, le litre d'essence s'achète actuellement entre 10 000 et 12 000 francs burundais. Au moment où ceux qui se déplacent avec ces moyens de transport demandent que les prix de tickets soient respectés. Les transportés disent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ceux qui utilisent ces moyens de transport expliquent que les chauffeurs des véhicules et motos qui consomment de l'essence ont déjà commencé à spéculer sur les tickets de transport. Ils ont déjà rehaussé une somme comprise entre 1500 et 3000 francs burundais et les motos une somme de 500 francs alors que le prix du ticket avait été récemment rehaussé avec l'augmentation du prix du carburant. Ils déplorent l'augmentation des prix alors qu'ils sont dans une extrême précarité après l'envoi des élèves à l'école ainsi qu'à l'achat des semences pour la saison culturelle A. Les commerçants disent eux aussi qu'ils travaillent à perte suite à cette hausse des tickets de transport. Ils disent que les marchandises ne sont pas achetées car elles arrivent sur le marché à des prix élevés suite à cette pénurie d'essence. Que ce soit les transporteurs, les commerçants et les clients, ils demandent au gouvernement de trouver solution à cette pénurie, surtout l'essence.
Entre-temps, le ministre de l'Énergie et des Mines dément formellement les rumeurs qui circulent, faisant état d'une imminente hausse du prix du carburant. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi, Ibrahim Ouidzeye a mis en garde les stations-service qui ne servent pas l'essence normalement et leur prévient qu'ils s'exposent à des sanctions sévères. Suivez.
Concernant le carburant, et comme cela a été annoncé dans la récente revue à la hausse du prix, dictée par les cours mondiaux de ce produit, aucun changement significatif n'a eu lieu, puisque le coût du baril qui était à 93$ n'a pratiquement pas varié. Rien ne pourrait donc motiver cette hausse de prix. Pour l'électricité, au demeurant, il n'y a pas de hausse de prix pour ce service car la voie empruntée pour des changements éventuels est connue. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines continue à suivre de près la situation au niveau international et ne ménagera aucun effort pour que le pays soit approvisionné adéquatement en carburant. De même, il assure la population burundaise que des efforts sont en train d'être fournis pour rendre disponible l'électricité pour tous. Il en profite pour lancer un appel à toutes les institutions pour décourager toutes les mauvaises intentions visant à saper l'économie nationale. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines tranquillise encore une fois la population que tout devra être fait pour que l'approvisionnement en carburant, produits pétroliers, et la fourniture d'électricité répondent à ses attentes et garantissent la poursuite de l'activité économique en toute quiétude.
Et c'est par la voix du ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouidjeye, que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et à la prochaine.